Bon, bien, bonjour tout le monde. Tout d'abord, je tiens à remercier les organisateurs du colloque, évidemment. Donc, Samuel qui n'est pas avec nous aujourd'hui, Joanne Lalonde et Alain Ayotte. C'est toujours un plaisir de participer aux événements de Figura et de Radical. Et je remercie spécialement vos collègues Louis-Paul Willis d'avoir si bien mis la table à ma présentation. Alors, sans plus tarder, attablons-nous, puisque nous allons cheminer dans cette même direction. Alors, au-delà du pathos souvent désagréable, pour ne pas dire irritant, que Lars von Trier instille méthodiquement dans ses œuvres, son cinéma est empreint d'un puissant symbolisme et son dernier opus, dont les deux parties sont sorties en 2013, n'échappe pas à cette logique. Au cours de ma présentation, je montrerai comment Nymphomaniac dévoile non pas une théorie de l'image, comme on en retrouve fréquemment chez les artistes visuels, mais une théorie de l'imaginaire. Il rend visible ce qu'il y a d'invisible, soit l'épaisseur figurale qui, tout en nous tenant à distance, nous lie les uns aux autres. Son film nous convie ainsi à une réflexion profonde qui porte tout à la fois sur l'image, la sexualité et la nature langagière de notre rapport au monde. Il faut dire que dans ce film, la sexualité ne dénote pas qu'un manque à combler, elle connote également un acte fécond, créatif, où les corps se rencontrent, où ils entrent en circuit les uns avec les autres, voire même les uns dans les autres. Et malgré cette description suggestive, je ne fais pas ici référence à un acte sexuel. Quand la nymphomane jouit, elle ouvre la bouche, et tout en dénotant son plaisir, cette béance renvoie à autre chose. Ce trou qui ne donne rien à voir, a priori, nous expose en fait aux accords signifiants qui, en œuvrant dans les sous-bassements du langage, nous ouvre au monde. La prémisse de Nymphomaniac est simple. Un homme, nommé Seligman, découvre une femme ensanglantée, Jo, dans une ruelle sombre. Celle-ci est jouée principalement par deux actrices, Charlotte Gainsbourg et Stacy Martin. Constatant le piètre état dans lequel elle se trouve, Seligman lui offre d'appeler des secours, chose qu'elle refuse catégoriquement car elle ne veut pas de troubles avec l'autorité. En revanche, elle fait savoir qu'un thé chaud lui ferait grandement du bien. Prémisse parfaite pour un film porno, un homme trouve une femme en détresse dans une ruelle et la ramène chez lui pour la réchauffer. Ce n'est cependant pas cette direction que le film emprunte. À partir du moment où Joe entre dans l'appartement de Seligman, Nymphomaniac s'apparente plutôt à certains classiques littéraires comme Les Mille et Une Nuits, Le Décaméron de Boccace ou Les Contes de Canterbury de Chaucer, puisque Joe assume un rôle de narratrice et raconte les divers épisodes de sa vie, souvent de nature sexuelle, qui explique comment elle s'est retrouvée dans un tel état. À la différence des œuvres littéraires citées, l'image cinématographique ne laisse toutefois pas de place à l'imagination, les scènes sont explicites et les gros plans d'organes génitaux fréquents. Très typique du cinéma de von Trier, le film se divise en plusieurs chapitres qui correspondent tous à un événement marquant de la vie de Joe. Chaque chapitre se construit autour d'un thème dominant, souvent une allégorie, qui se développe au cours de la conversation qu'elle tient avec Seligman. Jo est à l'écoute de son interlocuteur et elle récupère des éléments de son discours pour mettre en forme ou pour illustrer les divers épisodes qu'elle lui raconte. L'ingéniosité de von Trier est, à son tour, de récupérer ces éléments dans son esthétique cinématographique. Pour ma présentation, je me suis concentré uniquement sur la première partie de Nymphomaniac, qui correspond en fait aux cinq premiers chapitres. Je vous les résume. Ce chapitre se divise ainsi. Dans le premier, intitulé « Le parfait pêcheur à la ligne », Joe fait la comparaison entre la chasse à l'homme et la pêche à la mouche pour illustrer comment, au cours de l'adolescence, elle a fait ses griffes. Dans le deuxième, Jérôme, elle révèle comment elle est tombée amoureuse de Jérôme, son premier amant qui ne cesse de la hanter tout au long du film. Puis, le film atteint son apogée dramatique dans le chapitre « Mrs. H », alors que Joe raconte, avec énormément de flegme, comment son libertinage a causé la dissolution du ménage d'un de ses amants. Ensuite, avec « Delirium », Joe fait le rapprochement entre les derniers jours de son père à l'hôpital et le delirium tremens dont a souffert Edgar Allan Poe avant de mourir. Et finalement, dans « La petite école d'orgue », elle se sert du modèle compositionnel de Bach pour définir la nymphomanie. Le titre de ce chapitre renvoie d'ailleurs au petit livre d'orgue de Bach, dans lequel figure le prélude de chorale BWV 639, soit la pièce d'orgue qu'on entend dans cette séquence. Je récupérerai à mon tour, comme le titre de ma communication l'a suggéré, l'allégorie polyphonique pour éclairer le travail figural qui se cristallise dans cette scène finale. Donc, les multiples scénarios érotiques qui nous sont dévoilés attestent que Joe a toujours été ingénu. Depuis sa première et très belle pénétration, en passant par les innombrables aventures qu'elle a eues dans les lieux publics, souvent avec des inconnus, on suit pas à pas, scène après scène, son exploration de la sexualité. Pour finalement apprendre que, au terme de ses expérimentations, tandis qu'elle entretient une relation avec l'homme qu'elle aime, Jérôme, on apprend, dis-je, qu'elle n'arrive plus à jouir. À son grand désarroi, elle ne sent plus rien. Tel un puissant cliffhanger, la première partie de Nymphomaniac s'achève sur ce constat et nous laisse en appétit quant aux raisons pour lesquelles elle en arrive là. Cela dit, il ne faut pas penser que la deuxième partie du film, qui est beaucoup plus violente, explique cette tournure inattendue. Elle n'en dit rien. À vrai dire, tous les éléments nous permettant de comprendre cette fin surprenante nous sont déjà donnés dans la première partie. Pour les apercevoir, il suffit d'être attentif aux figures qui se forment dans le récit, aux cristaux qui se coagulent entre les images et à la mise en circuit des corps qui se produit. Seulement ainsi, nous arriverons à comprendre l'incapacité de jouir de la narratrice et c'est, grosso modo, le parcours auquel je vous convie avec cette présentation. Pour débuter ma démonstration, rien de mieux que de visionner une première séquence. C'est une séquence qui se trouve dans le deuxième chapitre, Jérôme. Petite mise en contexte, quand Joe se décide enfin à dévoiler son amour pour Jérôme, qui est à ce moment son employeur, elle apprend malheureusement que celui-ci s'est volatilisé avec sa secrétaire. Plutôt que de se résigner à ne plus jamais le revoir, elle s'adonne à un nouveau plaisir, un petit jeu de casse-tête qu'elle exécute dans le train en se masturbant et qui consiste à agencer différents éléments des voyageurs qui l'entourent, et ce, afin de reconstruire en son esprit la figure de l'amant disparu. Alors, quand Joe sélectionne et qu'elle met en relation tel élément avec tel autre, comme le soulier d'un passager avec la montre d'un autre, elle opère un découpage du sensible qui seul lui permet de revoir Jérôme. Loin d'être une mauvaise chose, comme le suggère la narratrice quand elle dit « But that's not necessarily a bad thing », le jeu de figuration auquel elle se prête n'a pas à être réprimandé. C'est grâce à lui qu'elle atteint l'orgasme. Cela dit, je veux attirer votre attention sur l'indice qui témoigne de sa jouissance, car il n'est pas innocent. Quand les lèvres de Joe se séparent, l'ouverture qui se crée ne débouche pas que sur l'intérieur de sa bouche. Elle en laisse voir beaucoup plus que la noirceur qui y paraît. Mon hypothèse est en fait que l'écart entre ses lèvres, qui est le symbole par lequel se définit Nymphomaniac, renvoie tout à la fois à la jouissance et à l'accession au langage, puisque c'est entre des signes que Joe jouit, et c'est entre des signes qu'elle raconte son histoire. Lars von Trier subvertit ainsi l'image pornographique, ou lui confère un deuxième sens, en lui faisant avouer que l'ouverture des lèvres n'est pas féconde strictement du point de vue sexuel, mais qu'elle l'est également en ce qu'elle nous ouvre au monde. Je ne crois pas avoir à insister sur le caractère fécond de la sexualité, mais quant au rapport que la figuration entretient avec l'ouverture ou la création du monde, cela va peut-être un peu moins de soi. Alors pour cela, je dois faire un bref détour par la philosophie, question d'esquisser les fondements de cette assertion, sans quoi la suite de ma communication perdra de sa clarté. Donc, je cite d'abord un penseur qui a sans contredit influencé Lars von Trier, à savoir Nietzsche. Dans le chapitre intitulé « Le convalescent d'ainsi parlait Zarathoustra », il écrit « Belle folie est le langage, c'est par lui que danse l'homme sur toute chose ». Avec cette phrase, Nietzsche est on ne peut plus clair, c'est par le langage que nous nous figurons des objets, et c'est par le langage que nous arrivons à les manipuler. Cela ne veut pas dire que sans langage rien n'existe, mais que notre mode d'accession au monde est langagier. Mieux encore, c'est par le langage ou encore entre ces signes que nous nous constituons comme sujet face à des objets. Sans langage, pas de folie possible, pas plus que nous n'arriverions à danser sur les choses du monde. Une telle logique a été récupérée et approfondie par une foule de penseurs, mais il y en a un qui s'est acharné à poser les fondements ontologiques du phénomène que j'ai en vue, et c'est Heidegger. Inspiré par les travaux du biologiste Jacob von Hoxha sur le comportement des animaux, Heidegger s'est proposé de distinguer l'homme des animaux à partir de l'idée que le langage nous permet d'entrer en relation avec le monde d'une manière toute particulière. C'est-à-dire que l'étang, il pense, tombe sous notre main comme des choses, soit comme des objets qu'on peut manipuler, et contrairement aux animaux, nous pouvons, grâce au langage, nous le figurer d'une manière plus ou moins précise. C'est pourquoi il écrit de manière très explicite, c'est quand même rare qu'une phrase à Heidegger est aussi simple, claire et limpide, il écrit donc, c'est grâce au langage et uniquement grâce à lui que règne le monde et que l'étang est. Ce qui est magnifique avec Nymphomaniac, c'est que je n'ai pas à m'épancher plus longuement sur ces considérations philosophiques pour que vous en compreniez le fond. La scène où Joe se masturbe est explicite quant à la manière dont on entre en relation avec le monde, car son plaisir sexuel relève précisément d'un travail imaginaire qui l'amène à se figurer l'objet de son désir. Mieux encore, c'est une manipulation de signes qui lui permet d'objectiver son désir et de le consommer. Dans la foulée des travaux de Heidegger, Richard Kerney écrit d'ailleurs que l'existence humaine est toujours et dans toutes ses dimensions figuration. Nous sommes des êtres créatifs qui figurons notre monde comme ceci ou cela. En affirmant ainsi que nous sommes des êtres créatifs, il sous-entend que le monde se crée au contact des signes qui se cristallisent dans des figures, exactement comme l'orgasme de Joe, qui n'advient que lorsqu'elle récupère des éléments ici ou là qui reproduisent la figure de Jérôme. Cela dit, on pourrait se demander ou questionner le statut qu'on doit accorder à cette ouverture. Est-elle pure abstraction? A-t-elle une réalité matérielle, corporelle? Nymphomaniac donne une réponse et montre qu'on ne peut pas trancher ces questions aussi facilement, car c'est dans le corps et entre des corps que nous surgissons dans le monde. Les figures créées par la narratrice ne sont jamais de pure fantasmagorie. Elles ne sortent pas de nulle part. Ce sont ses sens et évidemment ses organes sexuels qui en fournissent l'étoffe. Ses sensations, au même titre que le discours de son interlocuteur, sont des signes qui appellent à être interprétés, à être mis en relation avec d'autres signes. Et c'est cette mise en relation qui donne naissance, comme on vient de le voir avec le cas de Jérôme, aux figures de son imaginaire. Le cinéma en tant que médium offre d'ailleurs une piste supplémentaire pour articuler cette mise en relation, ne serait-ce parce que ses formes esthétiques ont contraint les philosophes à développer de nouveaux concepts pour penser la manière dont les signes se comportent. Disant cela, je pense évidemment à Gilles Deleuze, qui s'est approprié la structure triadique du signe de Charles Sander Peirce, et l'a déformé quelque peu pour l'appliquer à l'image cinématographique. Dans son ouvrage en deux tomes sur le cinéma, Deleuze distingue deux types d'images, l'image mouvement, qui désigne non pas une image animée, mais bien un mouvement qui fait image, et l'image temps, qui est une image abstraite qui donne à voir le temps. Je ne me pencherai pas sur le rapport au temps que ces images sous-entendent, puisque de toute façon je le fais amplement dans ma thèse, mais ce sur quoi je veux insister, il y a là une clé importante pour comprendre Nymphomaniac, c'est que pour Deleuze, entre ces deux types d'images, soit entre l'image mouvement et l'image temps, ils se forment des cristaux. Ces images cristales, comme ils les appellent, correspondent en fait à des petits circuits signifiants qui se composent d'images actuelles, c'est-à-dire des images au présent, qu'on aperçoit momentanément, et d'images virtuelles dont on a le souvenir et qu'on met en relation avec les images virtuelles, actuelles. Au cinéma, il écrit « L'image actuelle et l'image virtuelle coexistent et cristallisent. Elles entrent dans un circuit qui nous ramène constamment de l'une à l'autre et elles forment une seule et même scène où les personnages appartiennent au réel et pourtant jouent un rôle. » Cette logique fait en sorte que l'image cinématographique n'est jamais entièrement au présent ni purement virtuelle puisqu'elle se joue dans une scène où les personnages appartiennent au réel et pourtant jouent un rôle. Et c'est précisément à cette structure ou cette scène que la séquence finale de Nymphomaniac nous expose. Quand Joe compare la nymphomanie à un prélude de chorale de Bach, soit un jeu savant de contrepoint où chaque ligne mélodique entre en circuit avec une autre, puisque c'est ça la contrainte polyphonique, c'est-à-dire qu'il faut mettre en relation diverses séquences qui sont a priori indépendantes, Joe récupère en fait cette image, cette figure, pour illustrer la manière dont ses amants se rencontrent et entrent en circuit à travers elle. Pour les bienfaits de sa démonstration, elle ne parle que de trois amants, F, G et Jérôme, qu'elle associe aux trois voix de l'orgue sur le jeu de pied, la main gauche et la main droite. Donc F correspond à la voix basse, qui est une voix stable, puisqu'il lui apporte des attentions délicates. C'est la preuve. G, quant à lui, correspond à la main gauche, une voix plus imprévisible, dont elle juge le comportement animal. Et finalement, Jérôme, le cantus firmus, c'est le chant ferme, celui qui soude les trois voix ensemble, c'est l'homme dont elle tombe amoureuse. Visionnons ensemble la séquence. Dans cette séquence où les actes sexuels sont mis en relation avec des images virtuelles, l'orgue, le félin, les petites délicatesses, la voiture rouge, et où les corps se superposent les uns à côté des autres, voire les uns dans les autres, Von Trier construit un réseau complexe qui seul arrive à définir la nymphomanie. La nymphomanie n'est pas, et la narratrice y insiste, telle ou telle relation sexuelle prise individuellement, en série ou tout ensemble, c'est la relation, le circuit qui se crée entre toutes ces relations. C'est, si on veut, une relation de relations sexuelles. L'accord ou l'accord pour les amateurs de jeux de mots d'Héridien, c'est-à-dire ce qui n'appartient pas au corps et qui pourtant les met en relation, de la même manière qu'un accord musical qui, même s'il ne correspond à aucune note en soi, résonne entre les notes. Cet accord, dis-je, qui est mis en évidence par l'image cinématographique, on l'a vu, montre bien que ce n'est pas la pénétration seule qui fait jouir la narratrice, c'est tout ce qui l'entoure, tout ce qui entre en relation avec elle. Non seulement l'image polyphonique de la séquence finale donne à voir comment des corps deviennent des figures, comment ils jouent tour à tour des rôles, un tel est délicat, tel autre a un comportement bestial, elle montre par-dessus tout comment la nymphomanie se situe à l'intersection de ces figurations, comment le film Nymphomaniac en fait se définit dans cet interstice. C'est seulement quand on garde cette logique en tête qu'on comprend pourquoi, et là on va le voir, quand la musique s'arrête, Joe ne ressent plus rien. La nymphomane a beau être amoureuse de Jérôme, quand le magnétophone s'arrête et que les deux voix qui supportent le cantus firmus se taisent, c'est-à-dire quand ses amants disparaissent de l'image ou du circuit, son plaisir cesse. Dès que l'accord s'estompe, dès que les corps cessent de s'interpénétrer en elle, elle n'arrive plus à jouir. Il devient ainsi évident que c'est une harmonie figurale entre des corps qui caractérise et la nymphomanie et sa jouissance. Quand elle cesse de mettre ses sensations en relation avec des signes virtuels, de maintenir l'écart entre les corps, l'ouverture se ferme. Elle n'ouvre plus la bouche. Ce n'est donc pas anodin si sa jouissance prend la forme d'une ouverture, et pas n'importe laquelle, celle de la bouche, soit l'organe créateur à travers lequel elle nous raconte à son tour ses aventures, c'est qu'il y a, dans les deux cas, un même processus créateur qui est à l'œuvre. Bon, pour conclure, dans ses dialogues avec Claire Parnet, Deleuze écrit que, sous le langage, s'il y a une unité de base, c'est l'agencement. L'unité réelle minima, ce n'est pas le mot, ni l'idée ou le concept, il écrit, ni le signifiant, mais l'agencement. C'est toujours un agencement qui produit les énoncés. En confondant le surgissement du monde avec la reproduction sexuelle, la jouissance sexuelle avec la possibilité du langage et la pénétration des corps avec l'agencement figural, le film de Von Trier montre efficacement que cet agencement est inséparable des corps qu'il met en circuit, qu'il est lui-même un accord figural, une interpénétration de corps, un corps cristal. Plus encore, et je termine là-dessus, en soulignant l'enracinement du langage dans le cul, disons-le ainsi, Il met en évidence sa nature perverse. Merci.